t'agaces, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, le Leviron Funktuhr von de la Judaica. Wie geht's, Morje? Was haben wir? Prima, Goethe, c'est Strabzor. Toujours un peu de dialecte alsacien le matin pendant ma chronique, ça fait du bien dans le dedans de moi et dans le dedans de vous. Alors, j'ai fait des comptes ce matin. Ce beau matin, j'ai mon 101e invité. Waouh! Avant de vous présenter mon invité surprise, je voulais tout simplement vous remercier, chères grandes oreilles, de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter avec vos doubles oreilles. Donc ça fait deux fois plus d'audience. Et ça, c'est drôle, non? Alors j'ai une petite info ce matin sur mon invité. Il est d'une élégance très rare, petite barbichette bien soignée, grosse lunette noire. Il est le confident de ses dames, de sa clientèle. Alors qui est-il? Un peu de patience. Bonjour invité surprise, comment tu gazouilles dans ton monde? Tu rends les gens beaux, de plus en plus beaux. Tu peux te présenter invité surprise?
Oui, voilà, je suis Christian Wintz, coiffeur à Strasbourg et reconnu un petit peu mondialement la profession.
D'accord, on va en parler un peu plus tard, Christian. Ouais. Tu es coiffeur depuis très très longtemps, plus de 40 ans, une carrière de folie exceptionnelle, ciseaux d'or, doigts d'or, on se vidrge. Raconte-moi un petit peu, on va revenir un peu sur ta petite vie d'avant. De coiffeur, tu as grandi où? Où est-ce que tu es? Dans quel paradis tu as grandi?
Écoute, j'ai grandi la campagne à Gamsheim.
À côté du Rhin,
mm-hmm. Absolument, avec des parents boulangers-pâtissiers, une famille dans des métiers de bouche. Et puis voilà.
Donc tes parents étaient restaurateurs?
Ils étaient boulangers-pâtissiers, ils sont devenus restaurateurs un tout petit peu plus tard.
Plus tard, à la Vansonneau, je crois.
Toujours à Gamsheim. Et toute la famille était un peu à la Vansonneau dans les restaurants.
Alors, c'était comment ta jeunesse au bord du Rhin, à Gamsheim? C'est comment ton terrain de jeu?
En terrain de jeu, c'était les copains, c'était la forêt, c'était l'aventure, je dirais.
Un peu tirer la fronde, tu veux dire?
Un petit peu, oui, quand même. Ouais, très sympa, avec des frères, deux frères plus âgés que moi.
Qui t'ont appris la vie, quoi.
Qui m'ont appris un petit peu à me débrouiller tout seul.
Dans la nature.
Absolument.
Et alors, l'école aussi, c'était Gamsheim?
L'école était Gamsheim jusqu'à à l'époque, mon CEP, je crois que ça s'appelait.
Ouais, je crois qu'on faisait ça.
Ouais, on faisait ça. Ouais. Et puis après, c'était l'apprentissage à Strasbourg.
Et après, à l'école, c'était plutôt un petit rêveur ou un bosseur?
Je suis quelqu'un de très discipliné.
C'est vrai, tu as bien travaillé à l'école.
Oui, et j'aimais ça. Et puis, vu qu'on était d'une famille d'artisans, il fallait faire un métier.
Il fallait travailler. Et ton métier, très jeune, tu savais ce que tu voulais faire. Tu ne voulais pas être pâtissier et boulanger, ça.
Voilà, je n'avais pas envie de faire ça parce que tous les cousins, toute la famille, tout le monde était dans le métier de bouche. J'ai dit, je vais aller faire autre chose.
Mettre la main dans les pâtes, dans la farine, c'était pas ton truc?
Si, c'était pas un problème, mais vu que tout le monde y était, j'ai dit je vais essayer de faire autre chose.
Mais tu sais en fait faire un gâteau, tu sais faire des
Fonsenhofkirchl, des trucs comme... J'ai essayé tout faire, tout jeune, 10 ans, mes parents ils avaient du personnel qui restait là à l'époque, les pâtissiers, les boulangers. Le mercredi quand c'était fermé, c'était moi à 10 ans qui leur faisais la cuisine.
Ah, quand même. Et tu leur faisais quoi, des nudles?
Ah ben, de n'importe quoi, des rôtis, des nudles, des...
Oui,
absolument. C'était moi qui...
Qui nourrissais la famille,
Un petit peu le personnel de l'époque.
Le personnel de l'époque. Et vous aviez une grande boulangerie, pâtisserie?
Oui, on était quand même... c'était une grande boulangerie. Il y avait à peu près six boulangers-pâtissiers... mon père, ma mère et quatre vendeuses.
Et donc, tu n'avais aucune envie de reprendre cette boulangerie familiale?
Non, c'était pas du tout, parce que j'avais déjà mes deux frères qui étaient dans la pâtisserie et dans la boulangerie.
Toi, tu avais envie de faire autre chose. Écoute, on va un tout petit peu se reposer les oreilles. On va écouter une petite musiquette que tu aimes bien. Là, tu m'as demandé de mettre un peu de Leonard Cohen, je crois. Tu aimes bien sa voix.
Ah oui, non, mais j'adore.
T'adores, c'est pour ça qu'on va le mettre.
Oh, ben, c'est sympa.
your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove.
Il a une voix incroyable, une voix sombre comme ça.
Comment pourrais-je dire ça? Ça, c'est de la musique que je me mettais avant de faire des shows de coiffure, pour me détendre.
Ouais.
Sa voix me donnait...
De l'énergie,
De
quoi.
L'énergie, de... Voilà, c'est un peu pour ça que j'aime Leonard Cohen, et puis que sa musique, j'adore.
Tu l'as vu en concert?
J'ai pas eu ce plaisir de le voir en concert.
Je l'avais vu à Colmar il y a quelques années... C'était juste un concert de folie avec sa voix sombre, avec son petit chapeau, là, avec ses choristes. C'était
exceptionnel,
quelqu'un.
Hein.
Ouais. Et puis, il était à Woodstock aussi, je crois. Hein.
C'est
comme ça qu'on l'a connu. Hein. Et parle-moi un petit peu de comment tu as su qu'un jour, tu voulais devenir coiffeur. Quand on vient de la boulangerie, de la pâtisserie, couper des cheveux, comment t'as vu pourquoi tu as voulu être coiffeur?
Mon père avait un ami qui avait deux salons de coiffure à Strasbourg.
Ah ouais?
Oui, absolument. Et puis, ce copain de mon père a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec Christian? Il faudrait, ma femme a besoin d'un apprenti dans la coiffure, ça lui dirait. Et on m'a demandé, effectivement, j'ai dit oui.
T'as voulu, d'accord.
J'ai pas voulu, j'ai dit oui, on verra. Et premier jour où j'ai travaillé, je peux vous dire que le soir, je coupais les cheveux à ma mère.
C'est pas vrai. Donc, t'avais un petit don, t'avais du talent, t'avais quelque chose au bout des doigts?
Ouais, j'avais envie de créer. Voilà. Et puis, et de voir comment toute la journée, tout le monde coupait, moi avec mes ciseaux de débutant.
Quand on a 14-15 ans, on est aussi un jeune, c'est un peu d'argent de poche qui tombait dans la petite poche,
ah,
non?
Je peux te dire que le premier soir, j'avais tout de suite de l'argent de poche. Ça motive aussi, hein?
Ah bah ouais, bien sûr, parce que c'est de l'argent liquide quand on met un petit peu dans la poche.
C'était absolument un très bon bonheur, hein, ça.
Et alors, donc, tu savais que ça allait être ton futur métier, ça, tu le savais?
Oui, très, très rapidement, absolument. Très rapidement.
Et donc, tu as fait des écoles, tu as fait des études,
j'imagine. J'ai fait mon brevet de compagnon, après une maîtrise, et puis voilà. Et le fait de travailler un petit peu dans le monde entier, c'était un hasard.
Mais avant de travailler dans le monde entier, tu as bossé où? Tu as bossé dans un salon
de
coiffure?
Voilà, j'ai appris à Strasbourg, boulevard de Lyon, deuxième étage, dans un grand salon de coiffure à l'époque. Hein,
d'accord.
Il y avait une bonne clientèle, un petit peu...
Et là, tu avais quel âge? Tu avais à peine
14 ans.
14 ans, mais c'est incroyable.
14 ans, j'ai commencé en 1967.
Waouh.
Ah ouais. Mon métier, 14
ans. Dis donc,
ans.
Mais t'as quel âge? Parce que tu te fais vachement jeunes, là. La coiffure, ça conserve. Hein.
Je suis dans ma 72e année.
Waouh, ça se voit vraiment pas du tout. Hein. Ah ouais. Et alors, un jour, effectivement, tu vas dans un grand salon de coiffure aussi à Strasbourg, chez Weber, je crois.
Weber,
c'était quand même une des grandes adresses.
Ah, c'était un rêve d'aller dans cette maison, parce qu'à Strasbourg, c'était un petit peu la sommité des salons de coiffure.
Tous les bourges allaient là-bas, les médecins, les avocates, tout ça.
Et avoir cette chance de pouvoir être pris, c'était un tremplin pour moi.
Mais là, t'avais plus que 14 ans, là.
Là, je suis rentré de l'armée hein, quand je suis allé travailler là-bas. Ouais.
Et t'étais coiffeur aussi à l'armée?
Pas longtemps, un mois, parce qu'il fallait couper les cheveux aux hommes, et moi, j'étais plutôt femme.
Ah, ouais, d'accord.
Alors, c'était pas mon truc, et je suis devenu très vite responsable du foyer.
D'accord, mais à l'armée, c'est une tondeuse, non?
Oui, mais c'était pas mon truc.
C'était pas ton truc, donc t'étais derrière le bar.
Et vu que la coiffure et le foyer étaient pareils, c'était le même groupement.
Et t'étais où à l'armée? T'étais l'armée de terre?
De l'air,
de
à Ensheim.
Oh bah, t'étais planqué là.
Ouais, absolument, non, et à Ensheim c'était super.
Ouais, t'étais juste à côté quoi, c'était extraordinaire.
Juste à côté.
Tu t'es fait un peu pistonner, non? Ouais. Tu coiffais la femme du colonel?
Non, je crois que oui.
Écoute, c'est bien, t'as bien d'en profiter, ouais. Et un jour donc, tu lis une petite annonce dans un journal, je crois que bon, après, je coupe un peu, hein, je me fais du court, mais
ouais.
Tu vois une annonce dans le Figaro de Jean d'Ormesson, tu vois une annonce, et là, tu t'inscris, tu t'en vas, tu vas parcourir le monde. Raconte-moi un peu cette aventure.
Non, moi, je suis parti de Strasbourg, de chez Weber, pour aller travailler à Paris, dans un grand salon. C'est moi, à l'époque, dans un grand salon, tu pouvais travailler, mais pendant un an, tu payais beaucoup d'argent pour...
Ah, tu devais payer pour travailler?
Tu devais payer pour travailler.
Non, ça existe,
oui,
ça?
Absolument, oui. À l'époque, ouais, ça existait. Quand on rentrait dans une grande maison pendant un an, il fallait faire ses preuves, mais c'était en payant.
Ah, wow.
Alors moi, qui suis parti avec 500 francs à l'époque, à Paris, c'était pas mon...
Hein, c'était pas ça, quoi.
C'était pas ça. Alors, il fallait que je me débrouille. J'ai dit, je vais pas rentrer sur Strasbourg. Je vais essayer de faire quelque chose. On verra bien. Et c'est là où Figaro était...
Tu as trouvé une annonce.
Voilà. Et je suis allé, et on m'a pris, et c'était dans une société de production de cinéma, la SND, qui m'a engagé, qui travaillait théâtre, cinéma, pour le magazine, à l'époque Jour de France et tout ça. Et j'étais un coiffeur de cette équipe. Je faisais partie des coiffeurs, des maquilleurs, tout ça.
Donc toi, tu coiffais les gens qui se faisaient photographier.
Absolument. Pour des J'étais dans la mode.
Pour la défilée de mode, ça devait être extraordinaire, non?
C'était extra.
C'est génial, c'est exceptionnel ce que tu as fait.
Et de rencontrer tous ces grands couturiers, hein, Saint-Laurent, Dior, tout le monde, hein.
Cardin, t'étais...
Ah, tout le monde.
Et t'étais bien habillé alors quand tu coiffais ces belles starlettes?
Oui, absolument, toujours.
Et t'étais habillé par un couturier également?
Oui, Pierre Cardin qui nous habillait.
C'est pas vrai.
Pour les week-ends, quand il y avait des grandes soirées parisiennes, était habillé par Cardin pour lui faire de la...
Bah oui, bien sûr, de la réclame.
Voilà, absolument.
Bien sûr. Alors, raconte-moi un petit peu cette approche que tu as avec la clientèle à Weber ou ailleurs, même avec les grandes starlettes. Un coiffeur, c'est un peu le confident. On lui raconte un peu des histoires, on lui raconte un peu les bonheurs et les malheurs, non?
Absolument, on lui raconte sa vie, les problèmes de toutes ces femmes, c'est extraordinaire, mais ça reste toujours un
confident.
Un confident, absolument. Ça sort pas de l'endroit où on a eu ces infos.
Il y avait quand même une confiance, en fait, si les dames te confiaient leurs petits secrets.
De toute façon, les femmes qui te donnaient des secrets, elles savaient très bien que ça n'allait pas plus loin.
Et toi, tu étais à l'écoute de ces dames?
Ouais, super. J'adorais être à l'écoute et leur donner des conseils de faire des choses ou de ne pas faire des choses.
Ouais, exactement. C'est bien, ça, d'être confident. Et alors, comment ça se passe quand tu, par exemple, quand tu as une dame comme ça, que tu coiffes? D'abord, il faut la... shampoingé, j'imagine, il faut la bichonner un peu. Est-ce que tu mettais des bigoudis, ce genre de truc ou pas?
Non, il faut lui donner confiance. Ouais. Déjà, pour qu'elle soit presque rassurée que tu lui fais quelque chose où elle va sortir du salon ou de tes mains contente.
Ou tu la rends plus belle,
voilà.
Ou tu la rends séduisante.
J'ai toujours mon leitmotiv était toujours que la cliente qui sort...
Du salon de coiffure.
Du salon de coiffure ou d'entre mes mains, soit contente.
Qu'elle soit heureuse, ouais.
Voilà.
Alors, des fois, tu avais aussi des gens qui chipotaient un peu, non?
Je te dirais franchement très rarement, parce que je leur disais tout de suite, je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre.
Ah ouais, carrément.
Carrément.
Et donc, tu
pouvais me le permettre.
Bah oui, bien sûr. Et après, comment ça se passait? Tu avais un coup de ciseau, tu coupais les cheveux.
Oui, absolument. C'était un coup de ciseau, c'était un coup de ciseau rapide. Quand on a le métier en main, on ne traîne pas, on coupe. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et tu as toujours été dans ce... On parlait du salon de coiffure Weber, t'étais number one là-bas.
Ouais, absolument,
le grand, coiffeur
de cette maison.
De cette maison.
Ouais, pendant 4 ans.
Et c'était pas trop dur de quitter ce bel emploi, ce...
Si, mais dans la vie, il faut savoir évoluer. Et c'est là où j'avais envie de partir à Paris. Et c'est comme ça que je suis parti à Paris. Hein.
Ouais. Et donc, à Paris aussi, tu n'as pas tout de suite voyagé, faire des go-top.
À Paris, j'ai travaillé pour la haute couture, pour tout ça, et pour les magazines, pour le cinéma et tout ça, pendant 3 ans, avec toutes les soirées... les soirées des Césars, le festival de Cannes, où on allait travailler. Oui, oui, absolument, j'ai eu de la chance de
côtoyer le beau monde.
Ah oui, de vivre tout ça. Hein.
Je me souviens qu'un jour, parce que je te voyais de temps en temps aussi dans ton salon de coiffure, parce que j'avais fait un reportage, tu coiffes toujours aujourd'hui Gilbert Grèce.
Toujours.
Du Racing. Hein.
Absolument, toujours.
C'est ton ami intime,
c'est
tu le connais bien.
Un ami, je crois, Gilbert, son épouse, oui, non, absolument.
Ses enfants, ses petits-enfants.
Tout le monde.
Tout le monde, ouais. Alors, je me souviens que Gilbert Grèce, dans son schnepsec, comme on dit, dans sa petite poche, il a toujours une sorte de vieille brosse en plastique pour se coiffer.
Qu'il a toujours.
Ah, je suis t'es d'accord.
Hein. Ah non, je suis d'accord. Ouais, hein. Et si, parce qu'on les trouve plus tellement, si je suis dans n'importe quel endroit au monde et je trouve cette brosse en plastique, je lui achète.
Ah, tu lui achètes une brosse en plastique. Ça va, t'as un bon contact avec lui ?
Très bon contact.
C'est un homme heureux, Gilbert Grèce.
C'est un homme heureux, ouais. Avec une très très belle carrière. Très heureux, et oui, absolument.
Mais j'imagine, vous ne parlez pas du Racing.
Écoute, je ne suis pas foot. Ouais. Et quand on s'est connus, j'ai dit à Gilbert, écoute, ce n'est pas la peine que tu me racontes
foot. Que tu m'en parles.
Ça ne m'intéresse pas, ouais. Et je ne connais personne.
Parce qu'il a quand même des grosses blessures avec le Racing, ça, il faut le dire.
Ça, oui, c'est ouais, une, pas ouais. une grosse, c'est une grande...
Grande, ouais.
Voilà,
c'est...
tout à fait.
Ouais, je sais quand
mais bon,
on...
il a eu beaucoup...
Et après, il a une carrière exceptionnelle. Ce qu'il fait en Suisse, c'est juste génial.
Là, quoi. Justement, la semaine dernière, il y a un magazine suisse qui est venu, qui lui fait l'honneur de lui faire 6 pages.
Oui, je sais, il a...
Dans ce magazine, avec la couverture.
Ouais, il est plus connu en Suisse qu'en Alsace
qu'à
Paris.
Absolument.
Là-bas, on le respecte, cet homme. Il y a du respect. Ouais.
J'ai ouais. même, parce que quand il fait un reportage, il vient au salon pour qu'on voit où il se fait coiffer.
Oui, oui.
Et il y a des Suisses qui viennent prendre des photos.
Oui, tu as été
avec
un
moi,
jour.
Parce ouais. que je suis le coiffeur de Gilbert.
Après, tu m'as parlé aussi d'une anecdote de Jean-Yann. Hein, tu connaissais bien Jean-Yann. Tu le coiffais, hein, sa barbichette, tout ça.
Je le connaissais, mais je ne le coiffais pas. Lui, je le connaissais.
Je croyais.
Non, pas du tout.
T'étais plus chez les dames, quoi.
J'étais plus les femmes, Romy Schneider.
Waouh, t'as rencontré Romy Schneider.
J'ai rencontré Romy Schneider.
Mais c'est une immense actrice.
Non, mais ça, c'était un bonheur total.
Ah, quelle belle femme.
J'ai eu de la chance de rencontrer son coiffeur qui a fait un dîner pour moi,
ouais.
pour inviter Romy.
Waouh.
Et ça, c'était super. Et après, on est devenus, je dirais pas amis, mais on s'est fréquentés pas mal.
Bonne connaissance.
Ouais.
Alors, tu parlais le Deutsch avec elle, la Wie geht's, Madame, und so weiter.
Tout, absolument. Bon. C'était ça, un peu la complicité qu'on avait quand même ensemble.
Oui. Quand tu parles l'allemand, c'est plus facile.
Et puis, c'était pour moi...
Une grande dame, c'était une actrice exceptionnelle.
Un rêve, hein,
Et après, tu avais coiffé à Jenny, hein, je crois.
J'ai coiffé à Jenny quand elle était au théâtre. J'étais amie avec Annie Girardot.
Waouh.
Très, très amie avec elle.
La petite amie de M. Mitterrand. On ne peut pas tout dire.
Non, absolument pas. C'est des secrets que je garde.
Ouais, tu as raison de les garder. Bah, écoute, on va écouter un peu de la musique. Tu me disais que tu aimais bien Abba.
Ah, j'adore Abba. Ouais.
Alors, vas-y, mon ami... Monsieur l'ingénieur du son, mets-nous un peu de Abba.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. And that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory.
Ce sont les années 80, Abba.
Ce sont nos années.
Ce sont nos années à nous, quand on était jeunes.
Absolument.
Quand on dansait des sloves là-dessus.
Oh là là, c'était super ça.
C'était beau ça. Et alors, pourquoi tu aimes Abba? Parce qu'ils étaient habillés différemment?
Parce que c'est... J'aime leur musique,
ouais.
Leur composition. Il n'y a pas une chanson de Abba qui n'est pas bien.
Ils ont vendu des millions de disques à travers le monde.
Moi, je trouve que ces quatre personnages... me fascinait.
Habillé toujours habillé d'une manière extraordinaire.
Et de voyager comme ça dans, et d'être reconnu dans le monde entier, c'est un plaisir quand on est reconnu.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai eu de la chance d'être reconnu dans le monde entier par la profession.
Par ta profession,
voilà.
Ouais. Mais quand tu coiffais des gens à Tokyo ou en Chine ou à New York, comment c'était ? Tu avais une autre technique pour les coiffer ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai représenté la France dans le monde entier pour faire de la coiffure française. Avec des mannequins.
Ça c'était reconnu, la coiffure française, dans le monde entier.
On faisait partie de l'élite.
Ouais.
Toujours, quand il y avait un congrès mondial, la France terminait toujours le congrès, à part le pays. Mais on était toujours en avant-dernier pour clôturer un congrès.
Alors ça, des congrès, c'est ça qui t'a fait voyager, les congrès aussi ?
Ah, les congrès m'ont fait voyager dans le monde entier, hein, entre le Japon, le Brésil,
Comment c'était au Japon ? Raconte-moi une petite anecdote du Japon.
Le Japon, c'est extraordinaire. Des gens superbes, d'une gentillesse, d'un savoir, d'un travail...
Respectueux.
Magnifiquement bien, comme des rois. Je veux dire, j'ai eu de la chance d'avoir été nommé par les Japonais personnalité française de l'année.
C'est pas vrai, mais c'est incroyable.
C'est incroyable, hein.
C'est fou.
À Kyoto, c'était un souvenir extra. Et puis, j'ai la chair de poule parce que c'est quand on est reconnu par la profession, c'est quand même extraordinaire. Hein.
Et alors, est-ce qu'en France ou à Strasbourg, ça faisait un peu de jalousie parce que Monsieur Christian Vigne s'était connu ailleurs qu'à...
Pas du tout. Je ne faisais rarement, je parlais à personne, même pas à mes clients,
de ce qu'il faut faire. Mais tu as raison.
Jamais. Je suis resté très neutre.
Ouais, ouais. Il ne faut pas tout raconter.
J'ai eu juste de la chance que les DNA m'ont toujours un peu soutenu quand je revenais d'un voyage. Ils m'ont fait un bel article. Et puis voilà. Alors, c'était la seule chose, mais sinon, j'en parlais jamais.
Et alors, les dames japonaises, elles te confiaient pas leurs petits secrets parce qu'il fallait parler en japonais.
Si, j'avais quand même, à chaque fois, quand on était au Japon, j'avais une interprète à côté de moi.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, ouais. Parce qu'il fallait recevoir. Moi, à Paris, quand il y avait des congrès à Paris, je recevais la délégation japonaise, moi. Et c'était super parce qu'ils m'ont vu travailler là-bas. Ils voulaient absolument faire des photos avec moi. C'était toujours un plaisir.
Bah oui, tu étais beau garçon aussi. Hein, quand je vois aujourd'hui encore comment tu es habillé, le look que tu as, tu as vraiment le look du coiffeur avec des petites lunettes noires, une barbichette bien taillé.
Il faut toujours être à la hauteur. Hein.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que tu as des cheveux très courts. Hein. Moi, tu vois, j'ai des cheveux un peu... J'en ai plus beaucoup, comme toi, mais c'est un peu vaporeux, comme ça.
Non, mais ton côté sauvage te va très bien.
J'adore. Et alors, dis-moi, aujourd'hui, tu es donc revenu un jour de tes grands voyages parce que tu voulais fonder une famille. Tu es venu à Strasbourg.
Oui, ça, c'était en 79.
Ouais, c'est ça. Enfin, bon, voilà. Je sais que tu m'avais raconté ça un jour.
Oui.
Et à Strasbourg, tu as toujours ton salon de coiffure.
Toujours
Christian
encore,
Vince.
Absolument, oui, j'ai une bonne petite équipe. On a toujours cette reconnaissance.
Tu as aussi un coiffeur avec toi, où j'avais fait un reportage il y a bien longtemps. C'était un coiffeur aussi qui était reconnu par la profession.
Oui, c'était mon apprenti qui est devenu champion du monde de la coiffure homme.
Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Geoffrey.
Oui, Geoffrey. Redel,
ouais.
Après, tu as une petite équipe sympa, là.
Sympa, des gens qui sont avec moi depuis 25 ans.
Bah,
hein,
c'est ce qui fait ton succès.
C'est pour ça que je suis encore là.
C'est ça. Alors, tu étais dans une rue aussi de Strasbourg où il y avait un coiffeur à côté de l'autre. Hein.
On était dans la rue des coiffeurs. Moment, dans les années 2000, on était 8 coiffeurs dans la rue.
Comment elle s'appelle, cette rue ?
Rue du Fossé des Tanneurs.
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, combien reste de ces 8 ?
4.
4, certains qui ont mis la clé sous le paillasson.
Oui, malheureusement, oui. C'est dommage parce que c'était sympa d'avoir une rue de coiffeur.
D'une rue de coiffeur, oui. Après, pour devenir coiffeur, pour avoir un salon de coiffure, pour l'ouvrir, il faut des diplômes. Tu ne peux pas t'installer comme ça.
Non. Il faut une maîtrise ou un brevet professionnel. Dans la coiffure, tu ne peux pas ouvrir. Il faut quelqu'un qui a un diplôme.
Mais ceux qui se sont installés dans ta rue, c'était des gens qui étaient aussi confirmés, des coiffeurs confirmés
Qui avaient, s'ils n'étaient pas vraiment confirmés, ils avaient quelqu'un qui avait un brevet professionnel pour pouvoir ouvrir.
D'accord. Et donc, tu as gardé ta clientèle de Weber, de toutes ces années-là.
Je suis rentré de Paris au bout de 3 ans, j'ai mis une petite annonce comme quoi je suis de retour. Et très, très vite, j'ai récupéré toute ma clientèle.
Et alors, comment ça se fait quand on a un prix comme ça? Tu as un prix, tu as eu des ciseaux d'or ou d'argent, je crois.
Bon, alors... Non, ça, c'est les DNA qui m'ont, fait, qui m'ont donné ce ciseau d'argent, disons, et qui disaient que les ciseaux d'argent, c'était un petit peu mes mains et tout ça. Non, non, j'ai, la profession m'a fait chevalier, officier.
Wow.
J'ai eu un prix, je faisais partie à Los Angeles. Je faisais partie de 200 coiffeurs. J'étais demi-finaliste pour un prix de 200 coiffeurs du monde entier. Hein.
Wow.
Et je suis arrivé à devenir demi-finaliste à Los Angeles, qui était aussi un bon souvenir. J'étais déjà fier d'être nommé.
Ouais, hein, ouais, d'être fier.
Et d'être demi-finaliste, wow, était super.
Et alors, tu as quand même une vie incroyable de coiffeur. Il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui ont une vie comme la tienne, de voyages, de les paillettes. De... Qu'est-ce que tu gardes de toutes ces,
Je
années-là?
Je garde des rencontres.
Des rencontres.
Ah oui, des rencontres extraordinaires. Comme la princesse Grâce de Monaco, où j'ai fait un déjeuner. J'étais invité à un déjeuner.
À Monaco?
À Monaco.
Wow.
J'ai eu Grace de la
Kelly,
chance,
Grace
j'ai, oui, Grace Kelly, j'ai eu de la chance de rentrer au palais, des choses comme ça. Alors ça, c'est des souvenirs. J'ai eu une audience privée avec le pape.
Mais tu l'as pas coiffé?
Non, pas du tout.
C'est vrai, tu as eu le pape et tout.
Oui, oui. Wow. Alors c'est des choses que j'ai eu de la chance de par mon métier de faire des rencontres comme ça. Hein. Tout le Gotha d'Europe. Grâce à Alexandre de Paris, parce que je faisais partie de son équipe quand on partait travailler dans le monde entier, et lui coiffait tout le Gotha.
Alexandre, c'est aussi quelqu'un de très connu.
Ah
hein.
Ben c'était le plus grand coiffeur du monde.
Wow.
J'ai une anecdote, quand on arrivait au Brésil, à l'époque, on descendait encore les escaliers. Et
de l'avion, tu veux dire?
De l'avion, oui, ouais, oui. Et puis, en bas, les gens, lui, il était prosterné.
C'est pas vrai.
Ouais. Ah ouais. Alors, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et puis, faire la rencontre de tous ces grands couturiers et tout ça, c'était extra. Hein.
Est-ce que les gens, quand tu les coiffes, ils te posent des fois des questions par rapport à tout ça?
Ben, j'en parlais, dans ma clientèle, j'en parlais pas beaucoup. Juste un peu les derniers temps, ça me donne envie, ça me...
De partager.
Voilà, de partager un peu. Vu que j'arrive en fin de carrière, je partage avec mes anciennes clientes quand même un petit peu tout mes anecdotes. J'ai eu de la chance d'être invité par Jacques Chirac, Bernadette, à la mairie de Paris.
Incroyable.
Avec Mitterrand à l'Élysée. Je veux dire, j'ai eu de la chance d'avoir des réceptions comme ça qui étaient...
Et là, aujourd'hui, tu le partages avec nous à Radio Judaïka.
Absolument.
On est très heureux de t'avoir. Et je peux te dire, j'ai insisté combien de fois je suis venu te voir pour t'avoir au studio.
On a du mal à...
J'ai dû ramper par terre presque hein, pour que tu viennes chez nous. En tout cas, je suis très content que tu sois venu. Et quels sont un petit peu tes projets dans les prochaines semaines pour 2025?
Mes projets, je pars à Hambourg pour un congrès mondial.
Ouais.
Et sinon...
C'est une belle ville, Hambourg. Hein.
Ah oui, absolument. C'est... Je suis ravi parce que j'ai déjà une fois fait, il y a très très longtemps, je travaillais là-bas. Là, j'y vais en tant que membre intercoiffure. Mais je ne travaille plus là maintenant. Je ne fais plus de show.
Tu es juste là par la présence?
Oui, par la présence, parce que ça fait 45 ans que je suis membre de ce groupement. Je fais un peu partie des gens...
connus, reconnus par la profession. Ouais.
Et puis les congrès, ils ont envie de voir des gens qui sont là depuis très longtemps.
Depuis très longtemps. En tout cas, mille merci d'être venu, M. Christian Vint. Je te souhaite encore beaucoup de bonheur dans la coiffure et d'être toujours le confident de ces dames. Tu as bien de la chance. Merci et à bientôt.
Oui,
porte-toi bien.
André, moi je te remercie aussi de ton invitation. Hein. On est quand même arrivé à trouver un moment...
Un créneau.
Absolument.
Ouais,
je suis ravi.
Bah, merci beaucoup. À bientôt, Christian.
À bientôt.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.